si j'avais à transmettre l'expérience qui est la mienne, c'est-à-dire à transmettre non pas un savoir, non pas une théorie, mais l'expérience qui est la mienne, avec toutes ses dimensions partielles et partiales. Et vraiment, de plus en plus, j'ai le sentiment, il est partagé par bon nombre ici, qu'il faut oser entrer dans une équipe de psychodrame. Que c'est pas simple, que ça suscite tout un tas de fantasmes, d'interrogations, d'anticipations. Bon. Et que lorsqu'on a franchi ce pas, qui s'apparente bien sûr à l'idée de commencer une cure, il y a une telle richesse en matière d'enseignement, de formation, je répète, in vivo, par imbibition, à ce qui est notre vocation thérapeutique, que c'est vraiment un outil formidable. En dehors du fait de sa qualité en termes de traitement, voire de guérison d'un certain nombre de psychopathologies, il y a le fait que c'est le meilleur outil de formation qu'on ait jamais produit pour ce qui est de la formation des psychiatres. Avec bien sûr les supervisions psychanalytiques, collectives ou individuelles, mais enfin, là, pour ceux qui ont la chance en particulier d'être dans des équipes psychodramatiques de qualité, bien évidemment, avec des effets adverses aussi, bien sûr, mais enfin, s'il y a des gens de qualité autour de vous qui montrent aux patients, mais aussi à vous qui commencez, la façon dont ils fonctionnent, eh bien, vous avez cette chance d'être quasiment in vivo dans cette exploration du psychique par un certain nombre de personnes compétentes, et vous absorbez comme ça, quasiment par imbibition, un certain fonctionnement. Alors bien sûr, vous pouvez l'absorber de manière plaquée et faire de l'imitation, mais ça, on en est tous là au début, mais après un certain temps de psychodrame, quand vous avez dépassé ce cap et un certain nombre d'appréhensions, vous vous autorisez à montrer à des gens référents la façon dont vous fonctionnez dans un certain nombre de situations, et vous avez une formidable supervision, en particulier avec le nombre important de gens en psychodrame, qui permet à chacun de témoigner d'un angle de vue particulier, de quelque chose qui les sollicite plus particulièrement, et puis vous avez une espèce de mosaïque d'impressions, de sentiments des uns et des autres, que vous reprenez à votre compte, et que vous intégrez, tant bien que mal, pour avoir une certaine connaissance de votre façon de fonctionner, un peu trop formaliste, un peu trop rigide, un peu trop lyrique, un peu trop, un peu pas assez, enfin bon, très rapidement vous formez, quoi. Et ça, c'est vraiment formidable. Ensuite, ça permet d'être modeste, le psychodrame, parce que je dis que, parce que en général, le psychodrame pour un patient donné, ça dure un certain temps, hein. Ça peut aller très loin ici, il y a des patients qui sont restés des années et des années. Et là, vous vous apercevez, du fait de la nature du suivi, de la régularité du suivi, vous vous apercevez que vous faites toujours surprendre. Que bon, ce que vous saviez déjà, que le sujet humain, en particulier l'adolescence, n'avait rien de définitif, que le fait de lui avoir posé une étiquette diagnostique au départ était un préalable qu'il fallait éviter, et que la souplesse du fonctionnement psychique en fonction de l'étayage de l'environnement, en particulier des thérapeutes, vous faisait voir que ces adolescents étaient toujours des personnalités à facettes et qui montraient des facettes de leur comportement et de leurs troubles en fonction de l'interlocuteur. Et que si vous avez un collègue du psychodrame qui le sollicite sur un certain point qui n'était pas celui qui vous avait vous harponné, vous voyez fleurir cet adolescent, aller bien ou aller mal, etc. Et que vraiment l'importance de l'objet, l'importance de l'environnement dans l'investissement qu'il a pour le suivi et le soutien du patient, modifie radicalement l'idée que vous faites de sa structure psychique, voire du diagnostic. Alors, ça veut dire en pratique qu'on a vu des patients se réveiller après un nombre d'années conséquent, et puis inversement qu'on en a vu d'autres pour lesquels on anticipait une réussite assez rapide, s'enfermer dans des comportements répétitifs, dans des contre-investissements qu'on n'a jamais réussi à lever, même si on avait le sentiment qu'on pouvait le faire. Donc, ça vous remet un peu d'humanité dans cette façon qu'on a un peu éthologique, animale, de classer les individus, parce que là, vous voyez la psyché en mouvement. Ou dans ces phases de régression et de fixation. Mais en tout cas, il y a quelque chose de dynamique. Je crois qu'il faut qu'il y en ait, bon, comme toujours, suffisamment et pas trop. Nous, on est 6, leaders non compris. Il faut qu'il y ait une bonne répartition homme-femme, il faut qu'il y ait une bonne répartition des différentes générations, pour le dire comme ça. Il ne faut pas qu'il y en ait plus, parce qu'à mon avis, il y a une dilution. Il ne faut pas qu'il y en ait moins, parce que ça diminue la marge de manœuvre dans le choix pour le patient ou pour le leader. Comme ça, intuitivement, et par rapport à l'expérience qui est la nôtre, si ça va. Mais nous ne sommes pas contre des aménagements qui sont l'arrivée d'un stagiaire pendant un temps, qui ne joue pas bien sûr, mais qui modifie la donne du cadre et qui peut être intéressant, avec l'accord du patient bien sûr, ou quelqu'un qui connaît par ailleurs le patient parce qu'il le suit en tant que psychiatre référent. Enfin bon, nous ne sommes pas dogmatiques sur l'identité, la nature des joueurs. Il faut mettre des différences et surtout pour voir la façon dont le patient s'en saisit ou pas. Alors, il y a un certain nombre de psychopathologies qui ne sont pas des indications du psychodrame, c'est-à-dire toutes celles où, dans les entretiens préliminaires avec un consultant psychiatre ou avec une psychothérapeute, on a le sens, le sentiment, pardon, que les patientes ont de bonnes capacités psychiques, avec un distinguo très important, qu'ils ont d'abord des possibilités de mentalisation de leur problématique. Ensuite, qu'ils ont des possibilités de représentation de cette problématique, et enfin, qu'ils ont des possibilités d'élaboration et de verbalisation. Donc, il y a trois niveaux. Mais à partir du moment où il y a cette dimension de mentalisation, on peut envisager, dans un premier temps, d'exclure le psychodrame, d'envisager une psychothérapie de face à face, parce que c'est l'élément central de la prise en charge ici, quelles que soient les autres modalités qu'on met en place au début. Et il n'est pas exclu que le psychothérapeute, à un certain moment, nous dise oui, il y a un accès à son monde interne, mais en même temps, cet accès est dévoyé, aménagé, barré, compliqué. Il vaudrait mieux en passer d'abord par quelques essais de séances de psychodrame pour voir si ce n'est pas une meilleure modalité d'accéder à ce monde interne. Donc, il y a ceux qui vont, si je puis dire, suffisamment bien, dans le sens où ils ont un accès à leur monde interne et qu'ils peuvent tolérer d'en parler dans un espace privé, confidentiel, sans que ça les déborde émotionnellement avec des décompensations dépressives, voire pire, sans que ça les déborde au niveau, comme on a pu le voir, de décompensation délirante ou de décompensation psychosomatique, parce que d'être trop titillé, harponné, sollicité sur leur monde interne, où est le nœud du problème, eh ben, ils grattaient la cicatrice, celle-ci était inflammatoire et flambait, quoi. Et la douleur devenait tellement aiguë qu'ils n'avaient plus de possibilité de percevoir quoi que ce soit. La douleur les rendait aveugles. Donc on avait senti qu'ils avaient une sensibilité suffisante pour aller toucher du doigt ce qui était problématique dans leur monde interne, on avait mal évalué dans quelle mesure le fait d'y aller les faisait se confronter à un impensé, à un impensable, enfin quelque chose de térébrant qui les décompensait. Alors, si on veut parler plus clinique, toutes les pathologies de troubles de l'humeur majeurs, comme la mélancolie, bien sûr, ou les troubles bipolaires, la psychose maniaco-dépressive, toutes les pathologies schizophréniques délirantes, bien évidemment, sont des contre-indications, en tout cas à envisager d'emblée un psychodrame, qui pourra être éventuellement une technique psychothérapeutique d'appoint, mais qui n'est pas le centre. Mais plus que les contre-indications, c'est les indications, enfin le spectre des indications qui est important à considérer. L'idée est que quelqu'un, un adolescent, dans une configuration familiale particulière, réactive à ce moment de l'adolescence des troubles anciens, profonds, en particulier des interrelations familiales qui ont présidé à la genèse d'un développement psychique particulièrement perturbé, et que le sujet, dans les entretiens préliminaires d'évaluation du diagnostic, voire psychothérapeutique, montre souvent qu'il veut bien penser, mais qu'à un certain moment, quelque chose est barré. C'est-à-dire qu'il exprime des choses comme je m'ennuie, je me sens vide, ou alors il bâille, ou il répond à côté, ou il répond dans un certain conformisme, enfin bon. Il ne réagit pas aux sollicitations, avec la dimension pulsionnelle de ces sollicitations, qui sont les nôtres, à essayer de voir quand même que ce qui se présente aujourd'hui est en lien avec des difficultés dans l'enfance, qui se réactivent, et qui ne, ces liens ne sont pas directs, mais compliqués, quoi. Alors le consultant a le sentiment qu'il vaudrait mieux que ce patient, cet adolescent, puisse bénéficier du psychodrame au sens où ce qu'il ne peut pas exprimer facilement, verbalement, va pouvoir être pensé, métabolisé et exprimé dans un certain nombre de comportements, si je puis dire d'affect-émotion, d'affect-action, que le psychodrame pourra mettre en évidence. Et ma réponse est un peu alambiquée dans le sens où on ne sait pas. Donc on procède par tâtonnement, que ce soit le psychiatre référent qui voit en consultation pour la première fois un patient, que ce soit le psychothérapeute qui a envisagé qu'en effet il y avait un travail qui pouvait se faire et qui s'aperçoit à un certain moment que ce travail bute sur des éléments traumatiques qui sont pris dans un système excitation-répression et qui flambent dès qu'on les aborde. Bon. Mais que ce soit de l'autre côté, le psychodramatiste, les psychodramatistes qui prennent en charge un patient et qui voient qu'en fait le sujet très rapidement témoigne de bonnes capacités à mentaliser, à exprimer, à élaborer ses troubles et que très rapidement au bout de 4-5 séances de psychodrame on passe à autre chose, à une psychothérapie psychanalytique de face à face. On ne sait jamais si la difficulté qu'a eu le patient à exprimer son trouble et qui est à l'origine de l'indication du psychodrame était due au fait que le sujet était coupé radicalement de son monde interne et de ses éprouvés corporels, ou si c'était d'abord et avant tout un contre-investissement majeur d'un trop-plein d'excitation, d'émotion, qui l'empêchait de les exprimer, ça allait trop vite. Et c'est cette discrimination qu'on fait en tâtonnant d'un côté ou de l'autre. Ben, c'est vrai qu'on est un service spécialisé pour un certain nombre de psychopathologies et que forcément, c'est celles-là qui sont aussi dirigées vers le psychodrame et que le psychodrame ici, analytique, travaille, investigue beaucoup de patients anorexiques ou boulimiques. Bon. Mais je crois que... Enfin, vous le savez certainement, l'anorexie en soi ne veut rien dire sur la structure psychique qu'il y a de manière sous-jacente. Donc pour répondre à la question « quels patients viennent au psychodrame ?», c'est pas des patients... Enfin, je ne répondrai pas à cette question en disant « ce sont des patients pour qui les symptômes, le comportement, le syndrome, c'est ça ». Je réfléchirai plutôt en termes de « ce sont des patients dont le fonctionnement psychique est celui-là ». Et ceux que je vois le plus souvent en psychodrame, c'est ceux qui sont, pour tout un tas de raisons très différentes, soumis à une menace dépressive. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, en permanence, et qui sentent que s'ils touchent de trop près ce qui les menace, eh ben, la décompensation dépressive va être opérante et va les chambouler. C'est cela qu'on voit le plus souvent, et le rôle du psychodrame, c'est de montrer que, contrairement à ce qu'il présageait de l'anticipation de la décompensation dépressive, celle-ci apparaît, mais qu'elle n'est pas aussi majeure, dévastatrice qu'il l'imagine, et que surtout, la chaleur des larmes n'est pas une brûlure, mais plutôt un réconfort. Ça, c'est le premier cas de figure. L'autre cas de figure, c'est ceux qui sont... Une patiente disait ça très bien, c'est... Voilà, pour moi, c'était une indication du psychodrame lorsqu'elle m'a dit, écoutez, vraiment, il faudrait que je fasse dans ma tête une petite place pour mes pensées. C'est-à-dire l'idée que dans sa tête était pleine, mais de choses qu'elle sentait comme étant étrangères à sa propre pensée. Bon. Et le psychodrame, avec la pluralité des rôles qu'elle peut jouer elle-même et qu'on peut offrir au co-thérapeute, lui permet de poser ce qui appartient à sa mère, à son père, à son frère, à ce que vous voulez, et qu'elle existe dans un rôle de double où elle évoque l'idéal qu'elle serait ou la dépravation qu'elle pourrait être. Bon, c'est-à-dire de faire une espèce de d'avoir un droit d'inventaire quant à ce qui la trouble et de faire la part des choses de ce qui lui appartient, de ce qui ne lui appartient pas. Et puis un troisième cas de figure, c'est encore une patiente qui disait, qui était en psychothérapie et qui disait je sens bien que ça va un peu mieux, mais à mesure même où ça va mieux, j'ai l'impression de perdre quelque chose de moi. Et elle y évoquait l'idée qu'elle était une fleur qui perdait ses pétales ou un arbre qui perdait ses feuilles au fur et à mesure de la cure psychothérapeutique, ce qui est quand même intriguant pour celui qui est en face d'elle. Bon. Je crois que c'est mieux à ce moment-là d'être plusieurs pour qu'elle puisse déposer ce qu'elle imagine perdre sur plusieurs personnes qui pourront ensuite le restituer à la mesure même où elle pourra les appeler à venir. Bon. Donc à chaque fois où c'est bon de diffracter le transfert ou de poser une pluralité de contenants possibles en termes sexuels, masculins, féminins, générationnels, âgés, pas âgés, alors il faut recourir au psychodrame. Cette période charnière de la vie, ce moment carrefour, au carrefour à la fois du biologique, du psychique, du somatique, du social, du familial, bon, est un moment merveilleux mais extrêmement turbulent. Toutes ces turbulences qui réactivent des turbulences anciennes de l'enfance, mais en plus avec l'actualité de l'adolescence, qui fait que ces turbulences sont exacerbées. C'est pas une reduplication à l'identique, il y a à la fois une reduplication et des choses supplémentaires. Crée une sorte d'état tout à fait particulier où le sujet est quasiment en relation directe avec le monde externe et son monde interne. Il est à vif. Et que ce à vif est problématique pour un certain nombre d'entre eux, ceux qui consultent, dans le sens où c'est beaucoup trop douloureux et qu'à ce moment-là, vous avez des adolescents qui répriment massivement cette nouvelle relation au monde. Et cette répression empêche que l'expression des troubles puisse se faire dans un climat suffisamment serein pour eux, dans un espace psychothérapeutique. Alors le psychodrame est une espèce de théâtre où la question de l'articulation entre psyché et soma, entre individu et famille, avec le dispositif psychodramatique, permet de mieux contenir cette éprouvée à vif qui est tout à fait particulière à l'adolescence. Si on le disait en termes plus psychopathologique, il y a une dimension alexithymique, c'est-à-dire de difficulté à percevoir ses émotions propres et à percevoir les émotions des autres, tout à fait physiologique à l'adolescence, qui peut donner le sentiment que ces adolescents sont pas intéressants, sont niais, sont fermés dans une niaiserie confondante ou sont beaucoup trop crus, sans élaboration. En fait, tout ce qu'ils montrent là sont plus des mécanismes de défense contre une perception majeure de ce qui les trouble que la réalité d'un développement opératoire. Mais pour certains, il y a cette espèce de développement opératoire qui est une indication du psychodrame. Moi, ce que m'a apporté le psychodrame, enfin ce pourquoi j'ai été vers le psychodrame, en dehors de la conjoncture particulière ici, qui fait que c'est un service qui investit le psychodrame depuis des années, qui a une filiation considérable avec Lebovici, Diatkin, mais surtout Questenberg. Et donc il y a une question de filiation qu'on ne va pas développer, mais enfin c'est important. Il y a des ombres tutélaires qui flottent dans ce service et qui continuent à avoir une action agissante tous les jours. Bon. Plus particulièrement, depuis un certain temps, mon obsession, mon souci, mon interrogation, c'est la question de l'émotion. Si vous voulez, contrairement à un certain nombre d'autres personnes, je ne crois pas qu'au commencement était le verbe. Une une dimension très évangélique et très lacanienne. Non, je ne crois pas qu'au commencement était le verbe. Je crois qu'avec d'autres, qu'au commencement était l'émotion. Freud disait à la suite de Goethe, au commencement était l'action. Il voulait dire par là un affect-action, c'est-à-dire un éprouvé affectif qui nous oblige à une certaine action. On peut peut-être dire au début est l'émotion, c'est-à-dire l'émotion dans son origine charnelle. C'est-à-dire que lorsque le sujet exprime une émotion, cette émotion est liée dans sa relation avec son tempérament biologique et son éprouvé corporel. Qu'il n'y a pas d'émotion qui ne soit pas liée à une impulsion du corps. Il n'y a pas d'émotion psychique pure. Le psychique tout seul, ça n'existe pas. C'est toujours lié à cette surface, comme disait Freud, qui est la peau, comme disait Anzieux, qui est le corps et le soma. Bon. Donc mon truc à moi, c'est de rester médecin tout en étant psychiatre-psychothérapeute. C'est d'essayer de trouver ce chaînon manquant entre psyché et soma. C'est d'essayer, via l'émotion, de faire la part des choses entre l'un et l'autre. Bon. Et les psychodrames, pour ça, c'est formidable. C'est-à-dire que, si vous voulez, comme dans la relation amoureuse, ou vraiment lorsque les gens ont quelque chose à se dire, en général c'est dans le silence, ou comme les grandes douleurs qui sont en général muettes, il y a quelque chose de particulier au psychodrame, c'est que l'émotion transparaît en dehors même du verbe. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas au psychodrame, mais on n'interprète pas. Mais bon, ce qu'on dit est plutôt un bruit de fond, est plutôt une musique, plutôt un bercement. Ce qui est plus important, c'est la façon dont les sujets se positionnent les uns par rapport aux autres, se rapprochent, se touchent un peu, évitent de se toucher, appréhendent la venue d'un joueur qui va venir derrière, dire quelque chose ou pas. Et puis, les moments où le sujet n'élabore pas franchement sa problématique, mais pleure, est pris d'un fou rire. Bon. C'est-à-dire qu'il y a une introjection d'éléments compréhensifs de sa problématique qui passe dans le psychodrame, visuellement, perceptivement, par le corps, et qui est à l'origine d'une reprise émotive qui avait été obérée pendant tout un temps. Donc pour moi, le psychodrame est un lieu expérimental qui témoigne du fait qu'en particulier à l'adolescence, il ne faut pas être trop interprétatif. Il faut avoir tout un tas de théorisations dans la tête, mais être dans des interprétations d'attente, et que la plupart du temps, quand ça marche bien, c'est plutôt un mouvement, un geste, une chaleur, une attention portée, un regard qui appelle, une façon de dire au revoir ou d'amener le patient à rentrer, etc., qui font la différence. Et que, en général, d'ailleurs, quand vous interrogez le patient qui vous dit qu'il va mieux depuis un certain temps et que vous essayez, parce que vous essayez de comprendre ce que vous faites en lui disant « Mais dites-moi, la dernière séance a été, me semble-t-il, particulièrement importante. Visiblement, vous allez mieux, il y a des choses qui se sont débloquées. Qu'est-ce que vous en avez retenu ?» Ben, il vous dit, en général, un geste, une chaleur, une attention, quelque chose qui, dans le cadre, était différent, mais qui témoignait d'une expression corporelle de votre engagement, plus qu'une interprétation particulièrement pertinente. Et que, d'un point de vue thérapeutique, nous savons tous ici que des interprétations pertinentes sur une problématique chez un adolescent, dans la grande majorité des cas, toute psychopathologie confondue, sont le plus souvent, à cet âge-là, dans un moment aigu, traumatiques, qu'elles redupliquent le traumatisme. Le sujet n'en fait rien. Surtout si elles sont vraies et pertinentes, parce qu'ils se sont devinés. Bon. Et que ce qui pourrait éviter ce pathétique que vous avez la solution, a priori, mais que vous ne pouvez pas la délivrer comme ça, sinon ça a un effet contre-productif, ce qui apparaît important dans le psychodrame, c'est que vous pouvez, à votre insu, parce que tout ça n'est pas aussi pensé élaboré que ça, exprimer dans une certaine attention corporelle soutenante à votre patient ce que vous lui diriez en mots et qui de toute façon serait réduit. Le verbe, le mot va tuer l'émotion. Là, vous le faites passer. Et ça fonctionne et c'est pas traumatique. Pas toujours, pas tout le temps, mais bon. Alors il y a une espèce de paradoxe qui fait que les psychiatres sont des gens du verbe, des gens du mot. Qu'il faut qu'ils le maîtrisent totalement, cette question du verbe, de la dialectique. Bon. et que la plupart du temps, ils doivent le garder pour eux, et que le fait de l'avoir maîtrisé psychiquement et verbalement leur permet peut-être mieux que d'autres de l'exprimer autrement, et que ça passe à ce moment-là chez le patient. Donc, en ça, le psychodrame est vraiment spectaculaire par moments. Alors, attention, spectaculaire, là encore, tout peut se renverser. Hein. Cette proximité posturale, cette proximité corporelle, cette geste que vous avez avec votre patient vous permet d'être moins traumatique, mais à un certain moment, vous pouvez vous emporter, quoi. Et là, ça redevient traumatique. Alors l'intérêt du psychodrame, on y revient à ce moment-là, c'est que bon, le leader peut vous envoyer quelqu'un qui va mesurer votre enthousiasme ou votre mégalomanie thérapeutique, ou qui, contraire, va vous solliciter par rapport à votre retrait, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, ce qui est toujours essentiel dans la prise en charge d'un adolescent, de ne pas être seul. Oui, la question du plaisir dans le jeu est une question très compliquée. Il y a beaucoup de plaisir dans cette technique psychothérapeutique. Mais en général, en tout cas pour ce qui me concerne, le plaisir est essentiellement dans les intervalles libres entre deux patients, au moment où on discute du patient, et au moment où on discute de notre fonctionnement avec le patient. Bon. Il ne faudrait pas que le plaisir soit trop manifeste, trop visible au moment du jeu, parce que la dimension férocement incestueuse peut ressurgir très rapidement. Ou, pire, un plaisir qui serait un plaisir auto-érotique, quoi. C'est-à-dire qu'il n'intégrerait plus le patient, quoi. Et ça, s'il s'aperçoit qu'il est source d'une jouissance personnelle enfermée, bien évidemment, il va aller beaucoup plus mal. On voit ça en particulier quand ça se renverse, c'est-à-dire lorsque il y a des fous rires, par exemple, qu'il faut vraiment éviter, hein, mais qui ne sont pas tout totalement évitables et qui, en général, expriment un trouble, bien sûr. Mais ces fous rires sont vécus par le patient comme étant une espèce d'humiliation, de soumission au bon plaisir des autres, et aggrave son désarroi plus qu'autre chose. Le plaisir, il faut qu'il soit à l'insu des deux protagonistes. Il faut qu'il existe dans les marges, dans les petits détails. Il ne faut pas qu'il soit trop visible, trop spectaculaire, sinon il se transforme en ce qui le nourrissait, c'est-à-dire l'angoisse, et qui en général a des effets dilacérants pour tout le monde. Mais il est vrai que, en particulier, pour répondre à cette question d'une autre manière, quand on démarre le psychodrame, je parle de moi, mais je pense que c'est une expérience commune, pour celui qui s'autorise, quand il est jeune, à rentrer dans une équipe psychodramatique, c'est pas une partie de plaisir. C'est une source d'angoisse majeure, pour tout un tas de raisons assez évidentes, ça le sollicite beaucoup. Quand est-ce que cette angoisse à s'exposer, à se mettre en scène, se transforme en plaisir, lorsque le contenant des autres thérapeutes commence à créer du tissu conjonctif suffisamment bon pour qu'on puisse être un groupe et qu'il y ait un fonctionnement de groupe. Là, en effet, il n'y a rien de mieux que de pouvoir un peu s'hystériser sans que ça prête à moquerie ou à interprétation, mais que ça prête à plaisir à voir le fonctionnement qu'on peut avoir tout à chacun. Voilà. Et là, il y en a beaucoup à ce moment-là. Je peux en effet dire aussi un morceau de séance qui, moi, m'a beaucoup marqué. Il m'a beaucoup marqué parce qu'il me semble qu'il témoigne dans sa brièveté de ce que le psychodrame peut apporter à la fois aux patients, mais aussi aux thérapeutes. C'est-à-dire la confrontation face à un moment aigu pour un patient, la confrontation avec sa propre angoisse pour essayer de répondre à ce que le patient sollicite, et l'aide que peut apporter le groupe du psychodrame. Alors c'était une séance qui commençait comme ça, c'était un premier entretien, donc la patiente était vue pour la première fois, Alors, comme vous le savez, au psychodrame, on ne demande pas une anamnèse totale de l'histoire du patient. On ne sait pas très bien pourquoi il vient là. On a quelques idées, bon, mais pas plus. Donc, quand on va jouer avec lui, on s'expose à se tromper, à aller n'importe où, dans des chemins de traverse, etc. Bon. C'est jamais facile la première fois où on voit pour la première fois la patiente et que c'est vous qui devez aller échanger avec elle. Et là, en l'occurrence, la patiente commençait très fort puisqu'elle disait que tout ça l'embêtait, tout ça n'avait pas d'intérêt, qu'elle comprenait pas bien. Bon. Et on voyait bien que l'angoisse qui était la sienne était liée aussi à la confrontation à cette masse plus ou moins compacte d'éco-thérapeutes et à cette sollicitation pulsionnelle. Bon. Bref, ce qu'elle disait, c'est que tout ça m'intéresse pas, tout ça... Bon, m'ennuie profondément, et moi, je suis là prisonnière de mon envie de sauter par la fenêtre. Bon, donc ça commence très fort, et puis bon, donc le leader dit, on va jouer ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de refus de la sollicitation du patient, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la teneur d'angoisse qu'elle peut exprimer. Et donc nous y allons, je crois qu'il y avait 4-5 personnes qui jouaient autour d'elle. Donc elle était assez surprise parce que on n'avait pas peur de ce qu'elle nous montrait d'emblée qui pouvait barrer notre créativité. Bon. Et donc elle n'en démord pas quand même, elle dit bon d'accord, puisque vous voulez, je vais sauter par la fenêtre. Donc elle saute par la fenêtre et je sais plus qui. Je crois dans mon souvenir que c'était tout le groupe d'écothérapeutes qui a réagi en même temps, mais c'est bien sûr illusoire. Il y a dû y avoir quelqu'un qui a offert cette représentation. Et bon, en tout cas dans mon souvenir, tout le groupe de thérapeutes a dit, au moment où elle sautait par la fenêtre, regardez comme elle s'élève. Bon. C'est-à-dire que quelqu'un avait compris, il avait communiqué très vite à l'ensemble du groupe que dans la chute même, il y avait l'ambition d'élévation. C'est-à-dire qu'on n'était pas prisonnier de ce nihilisme apparent de la patiente, de cette destructivité, de cet aspect morbide, mais qu'on pouvait voir dans tout ce qui nous était présenté une possibilité de monter, d'être créatif. Ça m'a marqué parce que, pour deux choses, d'abord la patiente a été très surprise et ça a contenu par excité cette dimension suicidaire, mortifère. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait, je le répète, que dans mon souvenir, de manière illusoire, le groupe, dans le même temps, le même mouvement, a eu la même réaction de déployer sa créativité dans le sens de porter la patiente, un peu comme quelqu'un porte une danseuse, dans son ambition de s'élever, qui était justement ce qui lui posait le plus de problèmes, puisque elle n'arrivait pas à s'élever à hauteur de l'idéal considérable qui était le sien, qui était en regard de ce que l'idéal parental qui était projeté sur elle, et qu'elle, parce qu'elle n'arrivait pas à monter aussi haut que ses aspirations la sollicitaient à, eh ben elle pouvait descendre très bas. Bon. Mais moi, j'avoue que ce jour-là, il n'y a pas qu'elle qui était portée, moi aussi, visiblement. Et donc, ça a créé une... Quand même, ça permet de sortir de choses délicates, mais pas de sortir de choses délicates comme ça, de manière contournée, éludée, de sortir en reprenant, si je puis dire, au mot, à la lettre, au corps, parce que vous voyez bien qu'il y a la dimension du corps, là, elle tombe, elle monte, reprendre ce que le patient nous offre à penser. Et c'est vrai que c'est plus facile de penser ça quand on est plusieurs que quand on est seul. Tous ceux qui font du psychodrame le disent, à un certain moment, après un certain temps, une certaine expérience, lorsqu'ils sont confrontés à une relation psychothérapeutique avec un patient, donc en dehors du psychodrame, très rapidement, ils ont tous la tentation, et ils le font, à utiliser ce que le psychodrame leur a enseigné dans la relation duelle. C'est-à-dire, à un certain moment, par exemple, de pouvoir dire à la patiente, bon, mais si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Ou lorsque la patiente dit, oui, mais ça ne s'est pas passé comme ça, ce week-end a été catastrophique, de dire bon, écoutez, on va réfléchir à l'idée et vous allez me montrer comment ça aurait pu se passer si le week-end s'était bien passé. Donc tous les outils du psychodrame qui sont une possibilité de redistribution de la pulsionnalité des affects, de rejouer les choses dans d'autres dimensions en fonction des aspirations plutôt que de la réalité, sont terriblement utiles pour celui qui est à nouveau dans la relation psychothérapeutique. Et avec cet effet de surprise qui est sollicité chez la patiente et qui, bon, dans les bons cas, ça ne marche pas tout le temps, et ouvre suffisamment sa potentialité créatrice. Alors, ceci se fait pas avec les patientes qui sont au psychodrame, vous avez raison. C'est-à-dire que si vous faites du psychodrame individuel avec la patiente qui par ailleurs est au psychodrame, ça ne marche pas. Non, ce sont pour des patientes qui sont dans une relation psychothérapeutique et qui ne bénéficient pas du psychodrame. Mais ça rejoint ce que disait tout à l'heure, c'est-à-dire dans certaines dimensions affectives, dans certaines conditions particulières, le sujet peut très facilement mentaliser, se représenter, élaborer, verbaliser. Dans d'autres, il ne peut pas. Et vous, quand vous êtes en psychothérapie avec lui, c'est pas vrai que vous allez avoir le même fonctionnement toujours, tout le temps. En fonction de tout un tas de choses, mais aussi en fonction des moments et des dimensions affectives, vous allez être très clinicien, très cognitif, très comportementaliste, très joueur. Et que le psychodrame, là, est un outil de formation considérable parce qu'il vous confronte à la nécessité, en effet, de jouer sur plusieurs registres et que vous pouvez l'utiliser à nouveau dans la relation psychothérapeutique.